Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous sommes dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Et nous avons le très grand plaisir d'avoir avec nous dans le studio Jean-Paul de Ramble, maître de conférence à l'Université de Lille-Trois, grand spécialiste de l'histoire de l'art médiéval, et avec son épouse Colette, l'un des pionniers, ou les pionniers tout court, d'une relecture du vitrail médiéval. Vitrail médiéval en général et surtout des vitraux de la cathédrale de Chartres en particulier. Et nous avons dans une dernière émission évoqué le rôle, l'importance et la symbolique de la lumière, ou la réception de la lumière dans la cathédrale médiévale. Nous allons parler aujourd'hui de la lumière, mais celle qui traverse les vitraux. Donc nous allons parler des images médiévales dans la cathédrale et sans doute plus précisément des vitraux dont vous, cher Jean-Paul de Ramble, êtes un grand spécialiste. Donc, vos recherches actuelles portent sur le sens de l'image, des méthodes d'interprétation, parce que vous avez renouvelé toute la lecture des vitraux, et cela nous donnera sans doute l'occasion de tordre un peu le cou à cette image ou cette idée qui veut que le vitrail de la cathédrale est une Bible des illettrés, une Bible des pauvres. Est-ce vraiment la réalité ?
Merci de poser toutes ces questions qui sont importantes parce qu'il s'agit effectivement de rendre au vitrail vraiment sa vocation première qui est d'illuminer, qui est d'enseigner, qui est de provoquer un grand moment de joie. Alors effectivement, par rapport à ce lieu commun de la Bible des illettrés, il faut mettre vraiment les pendules à l'heure et préciser deux choses. Premièrement, la Bible des pauvres, c'est une expression consacrée au Moyen-Âge pour désigner un mouvement de spiritualité qui, à partir de la Bible, provoque une conversion. Donc il ne s'agit pas du tout d'utiliser des moyens pauvres en soi, mais d'accompagner une conversion à la pauvreté, donc tel que saint François l'a initié, mais aussi d'autres mouvements spirituels en France. Et effectivement, on va à ce moment-là diffuser des Bibles qui sont accessibles à tout un chacun et qui vont accompagner cette grande démarche spirituelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des illettrés, on a toujours un petit jugement péjoratif en disant, après tout, cette image est une sorte de sous-produit qui s'adresserait bien aux gens qui savent pas lire. Et alors, ce qui me fait le plus de peine toujours, c'est la comparaison avec la BD, parce que effectivement, on voit que j'aime beaucoup les BD, mais on a l'impression quand même d'un art mineur qui serait une sorte de succédané de grandes expressions artistiques. Alors, il faut restaurer, il faut redonner au vitrail vraiment ses lettres de noblesse et bien comprendre ce qu'est le langage de l'image. Effectivement, le langage de l'image a la particularité de s'adresser non pas tant à l'intellect, au sens d'un intellect qui devrait analyser des signes pour les lire, mais qui s'adresse à une compréhension plus globale. On pourrait presque utiliser finalement la comparaison entre la méthode syllabique et la méthode globale. Il y a finalement deux entrées dans la compréhension. Il y a une compréhension d'analyse qui est réservé effectivement à une certaine élite qui pourra décomposer les différents syntagmes, qui pourra décomposer d'où vient, comment est fabriqué le sens, et puis une autre compréhension qui est celle d'une globalité, qui est celle d'une synthèse, et qui est à ce moment-là beaucoup plus porteuse. À vrai dire, les images au Moyen-Âge, et donc les images des vitraux, sont voulues par des lettrés. Et les lettrés, par rapport aux images, vont adopter une démarche différente de la démarche purement analytique. Les lettrés, dans leurs livres, par exemple, aiment bien mettre une image à côté d'un texte. Donc effectivement, on a le texte pour les lettrés, mais les lettrés ne s'interdisent pas du tout l'image. Au contraire, ils vont privilégier l'image comme étant l'expression la plus complète, la plus raffinée de la compréhension de ce qui est écrit, une sorte de vision qui récapitule toutes les données dans un moment de contemplation qui est bien au-delà de l'analyse et qui est cet accomplissement de l'intelligence qui voit et qui comprend et qui va s'identifier à ce qui est perçu. Donc, les images ne sont pas des sous-produits réservés à des illettrés, mais le moyen de rassembler lettré et illettré. C'est ce qu'a voulu dire le pape Grégoire, parce que souvent on utilise la phrase du pape Grégoire pour justifier le langage des illettrés. Le pape Grégoire dit deux choses à l'évêque de Marseille, qui est un peu un évêque peut-être un peu exalté dans sa lutte contre les images. Il lui dit « tu as eu raison de lutter contre les images parce qu'effectivement il ne faut pas les adorer, il faut éviter la confusion qui consisterait à croire que ce qui est que l'objet de la foi est dans l'image ». L'objet de la foi est au-delà de l'image. Mais deuxièmement, tu as eu tort de les détruire parce que les images sont des puissants moyens de rassembler dans un même lieu lettrés et illettrés. Il utilise cette phrase, les images sont là pour que les illettrés puissent lire la parole d'une manière différente, bien sûr, des lettrés, mais d'une façon peut-être plus accomplie encore, dans la mesure où les lettrés eux-mêmes vont considérer cette image comme l'aboutissement, l'accomplissement de la compréhension. Donc l'image est le résultat d'un processus complexe d'écriture, de lecture et de contemplation. Mais l'image se situe évidemment plutôt du côté de la contemplation, parce que quand on voit les images, les choses vont sans dire, les choses vont sans être lues. On a une sorte d'accès beaucoup plus immédiat au mystère. C'est ça qui est fantastique. Et toutes les civilisations vont cultiver l'image comme étant le degré supérieur de compréhension. Alors là où ça se corse pour nous aujourd'hui, c'est que curieusement, nous avons un jugement un peu péjoratif de supériorité vis-à-vis de ces pauvres gens du Moyen-Âge qui auraient eu besoin d'images pour accéder au mystère. Mais en plus, nous sommes dans l'incapacité de reconnaître quoi que ce soit dans ces images parce que nous avons perdu l'accès au texte, justement. Et donc, il faut restaurer aujourd'hui une double lecture, une lecture des textes références qui permettent de comprendre ces images. Et d'autre part, une fois qu'on a compris le sens de l'image, un moment de contemplation, un moment où on va goûter la beauté de ce qui est raconté, de ce qui est montré. C'est un long travail qui finalement nous oblige à considérer les gens du Moyen-Âge comme très très performants dans la mise au point de ce langage visuel qui, quand on l'étudie de très près, est tout à fait construit, parfait, structuré et efficace. Donc c'est pas du tout un amusement, c'est pas du tout une ornementation pour faire beau, comme on pourrait dire, mais vraiment le moment le plus privilégié de l'accès au mystère, et on va réserver précisément les plus beaux supports, les plus beaux matériaux comme le verre, l'émail et autres lieux artistiques, on va les réserver pour exprimer l'essentiel de la parole de Dieu.
Cher Jean-Paul de Ramble, vous étiez en train de nous parler des images dans les vitraux ou les images médiévales dans les cathédrales. Et nous avons effectivement tordu le cou à ce lieu commun qui voudrait que les vitraux soient si simples et s'adresseraient au peuple illettré. Donc en réalité, vous avez pu souligner par le passé, par vos recherches innovantes, que que les vitraux sont en réalité des supports d'images très complexes. Et nous savons par les pères de l'Église qu'il y a quatre sens de lecture, et ce sera peut-être le moment effectivement d'entrer dans le vif du sujet, ces quatre sens de lecture d'un vitrail.
Voilà, c'est une méthode éprouvée tout au long de l'époque patristique, une méthode qui est reçue de la grande tradition juive du commentaire des Écritures, qui consiste à jalonner la compréhension d'un texte en quatre étapes. Premièrement, il s'agit de recevoir le texte dans sa littéralité et de considérer, par exemple, pour ce qui est de l'image, la même chose, de considérer le thème, ce qui est raconté dans l'image, avec une rigueur de réception du thème entière. Il ne s'agit surtout pas de faire comme si l'histoire venait de n'importe où. Il y a vraiment une référence, il y a un lieu d'écriture, et il s'agit dans un premier temps de bien décoder le texte ou de bien décoder l'image, donc de savoir lire. Et déjà, la première difficulté, c'est qu'effectivement, nous, aujourd'hui, rien que ce premier niveau nous pose beaucoup de problèmes. La lecture littérale d'une image est souvent plus compliquée que celle d'un texte, alors que ça devrait être le contraire, mais il nous faut réapprendre les codes d'écriture de ces images. Alors, la deuxième étape, c'est une mise en perspective de ce thème qui est dans l'image ou dans le texte, de le mettre en correspondance avec d'autres textes, avec d'autres événements de l'histoire sainte, et de voir donc comment, tout au long de l'histoire, les événements se répondent les uns les autres dans une grande continuité, avec une reprise finalement des choses anciennes qui vont se révéler en choses nouvelles. C'est la méthode qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire on considère que tous les événements anciens sont comme des matrices, comme des moules de ce qui va arriver. Donc il y a un lien étroit entre la chose ancienne qui préfigure, qui annonce, et puis l'actualité qui concrétise l'espérance des siècles passés et qui donne une forme concrète à ce qu'on espérait d'une façon plus ou moins claire. Cette typologie, elle va occuper vraiment l'essentiel de la littérature médiévale et patristique, au point de faire correspondre tous les événements de l'Ancien Testament en événements du Nouveau Testament. Et visuellement, les images vont donner à ces correspondances des forces de démonstration tout à fait étonnantes, par des mises en parallèle, par des renvois de l'un à l'autre, par des effets de diagonale, où effectivement, ayant raconté cet événement de l'Ancien Testament, on le retrouvera finalement in fine dans le Nouveau Testament. Même à l'intérieur du Nouveau Testament, on fait des correspondances, donc on établira la correspondance entre... par exemple, à Chartres, le vitrail de la rédemption, qui raconte la passion du Christ, est tout à fait extraordinaire. Littéralement, on va lire la mort du Christ. Il est mis en croix, descendu de croix, mis au tombeau. Bon, ça se termine d'une façon négative, par une mise au tombeau. Le moment le plus énigmatique de la foi chrétienne, celui qui est le plus dur, le plus obscur. Mais en même temps, tout autour, on va disposer des événements de l'Ancien Testament qui annoncent la vie là où on pourrait lire la mort. Par exemple, dans le sacrifice d'Isaac, on pourrait voir la mort d'Isaac. Il faut voir au contraire que Isaac a été épargné, le mot de Pâques qui est déjà utilisé. Dans Jonas qui est jeté dans la mer, il faut voir Jonas qui est sauvé au bout de 3 jours et qui va ressortir, de même que Samson, emprisonné à Gaza, va ressortir de la ville de Gaza, de même que le vieux patriarche Jacob bénissant ses petits-enfants Éphraïm et Manassé, les bénit d'une façon croisée en mettant la main droite sur le cadet et la main gauche, la main droite sur... et inversant donc le cadet devenant premier, la main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné. Et Joseph, qui est le père de ses deux enfants, se plaint en disant: mais tu t'es trompé, c'est à l'aîné d'être l'aîné et au cadet d'être le cadet. Mais dans cette correspondance, il y a une inversion, parce que la chose nouvelle tout à fait récente, tout à fait a beaucoup plus de poids d'une certaine manière que la chose ancienne. Disons que la chose nouvelle va valider une longue tradition d'espérance. C'est une méthode merveilleuse qui met en valeur la continuité de l'histoire et en même temps un renversement qui donne à l'actualité toute la force de l'acte de foi dans le moment présent. Alors ça, c'est le deuxième niveau de lecture, qui est très savant, parce qu'il faut connaître tous les événements d'écriture ancienne et nouvelle. Ensuite, il y a un troisième niveau, qui est le niveau de l'application. On l'appelait à l'époque morale, c'est-à-dire éthique, c'est-à-dire, pour reprendre un mot plus savant encore, tropologique, c'est-à-dire la science des comportements. Les tropes, les tournesols sont des plantes héliotropes qui se tournent vers le soleil. Donc il s'agit de trouver la bonne tournure, le bon comportement, et d'appliquer ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de comprendre et ce qu'on vient d'interpréter. Et c'est très riche, hein, parce qu'on pourrait en rester à une lecture intellectuelle des choses. Il s'agit, comme on le voit dans les sculptures du portail nord de la cathédrale de Chartres, qui fait les différentes séquences de la lecture, cette femme qui prend un livre, qui ouvre le livre, qui lit le texte, qui le ferme, qui le commente, et qui ensuite le médite pour l'appliquer dans la vie concrète. Donc c'est la science des comportements qui fait que cette lecture a un effet et qu'elle est productive d'une attitude chrétienne dans l'histoire. Ces trois moments de l'écriture, ces trois premiers moments de l'écriture vont eux-mêmes se globaliser en un seul, qui pourrait être le quatrième, mais le quatrième non pas dans l'addition, mais le quatrième comme synthèse des trois premiers, ce qui est la lecture mystique, c'est-à-dire la jouissance pleine et entière de tout ce qu'on a lu littéralement, de ce qu'on a compris intellectuellement et de ce qu'on a appliqué corporellement. Ça reprend évidemment les trois grands transcendentaux de l'esprit, du cœur et du corps, les trois dimensions qui font que l'acte de compréhension est complet. Et cette plénitude est mystique. C'est une extase, c'est un moment effectivement qui est promis, et où tout coïncide, la lettre, l'esprit et le corps du croyant. Alors ces quatre sens de l'écriture, c'est une merveilleuse méthode que l'on retrouve encore un peu, enfin qu'on aurait tout intérêt à réactiver aujourd'hui, ne serait-ce que pour comprendre qu'une interprétation est effectivement une mise en relation de ce qui s'est dit, de ce qui va se dire, de comprendre que ça ne va pas sans une pratique, et enfin qu'il y a un moment de jouissance esthétique ou un moment de jouissance mystique de toute cette parole qui atteint sa performance finale, peut-être dans une résurrection si on veut, mais en tout cas dès à présent, puisque la plénitude des trois sens est la promesse de la plénitude du quatrième.
On va peut-être illustrer ce propos avec la ville de Jérusalem, avec laquelle on peut très bien illustrer ces quatre sens de lecture.
Voilà, toute réalité va passer dans ce filtre de la réalité historique, de cette réalité plus symbolique, allégorique ou typologique, pour en arriver à une réalité concrète de Jérusalem qui serait celle des temps de la promesse et finalement une Jérusalem céleste, celle de l'Apocalypse. Et dans tous les livres de l'Écriture peuvent se classer suivant ces quatre temps.
Chers amis de Radio Grand Ciel, Jean-Paul de Ramble était en train de nous parler des quatre sens de lecture, des vitraux, des images médiévales dans les cathédrales, et nous allons approfondir peut-être ce sujet en le complémentant par une explication sur la structure narrative des vitraux, car il y a un sens de lecture, il y a quatre niveaux de lecture, mais il y a aussi une direction de lecture des vitraux qui à Chartres se lisent du bas vers le haut.
Voilà, c'est un peu le sens du travail qui a été mené, de découvrir que toutes ces histoires imagées étaient soigneusement élaborées, et soigneusement construites, avec une grande économie de moyens. Alors, qu'est-ce qu'on avait dire construite? C'est un peu ce que Lévi-Strauss nous a rappelé dans tous ses travaux et qui ont donné lieu à l'étude des mythes fondamentaux. Ces récits ont un début, un milieu, une fin. C'est un peu banal, mais c'est pas si facile que ça à réussir. Il suffirait, par exemple, de faire l'expérience en 20 séquences, de raconter une histoire. Est-ce qu'on arrivera en 20 séquences à équilibrer le début, à faire en sorte que la pointe du récit soit bien au milieu et que la conclusion tombe, finalement, dans un mouvement symétrique, in fine. Souvent, il y a des déséquilibres. C'est tout l'art oratoire, c'est l'art d'une belle plaidoirie, héritée des Latins, héritée de Cicéron, et les maîtres verriers et les concepteurs des vitraux de la cathédrale possèdent très très bien cet art oratoire. Ils sont tous des adeptes de Cicéron qui le récitent par cœur. Et donc tout l'art est effectivement de bien raconter l'histoire. Et on pourrait prendre énormément d'exemples. Finalement, tous les vitraux sont construits avec une rigueur incroyable qui en fait d'ailleurs toute la beauté et toute la performance. Par exemple, le vitrail de Noé, qui raconte ce grand épisode du déluge, va construire son récit autour d'un premier phénomène qui est un phénomène négatif, qui va effectivement être purgé au milieu du vitrail quand l'arche de Noé flotte au-dessus des flots, et donner naissance à une nouvelle création avec la décrue et la descente de Noé, son épouse, ou des animaux. Que se passe-t-il? Effectivement, au début, on a soin de montrer que les couples qui habitent la terre sont des couples désunis, c'est des couples dissymétriques, avec ces fils de géants qui s'unissent aux fils des humains, au point que tout est complètement démantelé. Donc les sources de violence, de tragédie, et il faut effectivement, cette création n'aboutit plus. Donc l'eau, qui est celle de la mort, mais en même temps celle du baptême, va permettre, grâce à l'arche, qui est celle de l'Église, qu'on voit apparaître dans les médaillons de ce vitrail de Noé dans les losanges, merveilleuse arche construite soigneusement par Noé et son fils, qui reçoit donc tous les animaux de la création par paire, par couple, qui flotte au-dessus des eaux pendant tout le temps de cette première mort, mais qui va ensuite délivrer tous les couples bien appareillés, des couples harmonieux, des couples qui vont respecter la belle alliance promise initialement et qui vont repeupler la création. Et cette alliance, cette belle alliance, est le modèle et le type même de l'alliance de l'homme avec Dieu. Donc on verra à la fin un arc-en-ciel qui répond par une symétrie à l'arc, l'arche, c'est le même mot qui se complète finalement, l'arche sur les eaux, l'arc dans le ciel. Il s'agit effectivement de montrer cette belle unité. Et toute la construction du vitrail va insister sur les effets de symétrie, sur les effets d'équilibre entre la première partie et la deuxième partie, comme une sorte de plongée dans les abîmes dans un premier temps, et ensuite une remontée dans un deuxième temps, mais qui se dit d'une façon inverse, puisque les eaux montent dans le premier temps et les eaux connaissent une décrue dans un deuxième temps. On pourrait prendre aussi un autre vitrail plus ancien, mais qui est extrêmement bien construit sur la façade occidentale, le vitrail de la Passion, où on n'a que 14 médaillons. Donc deux rangées de 7 verticales qui se lisent effectivement du bas vers le haut, comme une sorte d'ascension, avec une construction qui met en binôme deux médaillons, Par exemple, on va commencer par la transfiguration, qui est un moment positif, et puis la descente de la montagne où le Christ demande le secret et surtout fait l'annonce de sa passion. Les apôtres ne comprennent pas très bien pourquoi, connaissant la gloire, il est obligé de subir la passion. Un deuxième niveau avec la scène, ce merveilleux repas, dernier repas, et puis juste à côté, la trahison de Judas, le baiser de Judas. Un troisième niveau avec l'arrestation et la flagellation. Donc on a trois niveaux qui vont insister sur cette passion, cette sorte de kénose, de descente, où le Fils de l'homme est complètement abaissé. Et au milieu du vitrail, donc quatrième niveau, on a déjà eu trois registres, et il y aura trois registres après, donc ce niveau qui est un peu l'axe du vitrail, la mise en croix, la descente de croix. Toute l'histoire tourne autour de la crucifixion, qui apparaît vraiment au centre du vitrail, dans ce double mouvement, mise en croix, descente de croix. Et la deuxième partie du vitrail, les trois derniers registres, vont insister à ce moment-là, non pas sur le chemin qui conduit à la mort, mais sur le chemin qui conduit à la vie. Mise au tombeau, tombeau vide, l'apparition à Marie-Madeleine, apparition aux apôtres, et rencontre in fine des pèlerins qui rentrent à Emmaüs, et le repas d'Emmaüs, qui est le moment où il se fait reconnaître à ses disciples au moment de la fraction du pain. Et donc on a traversé l'épreuve, c'est le sens un peu de tous les récits mythiques, que de poser initialement une quête, un objectif, de faire en sorte que cet objectif soit atteint, mais en passant par des épreuves, par des combats, et en l'occurrence ici par la mort, et à la fin, le héros connaît effectivement la résolution de son problème, et ce moment de résurrection qui va se lire comme l'envers de la mort, dans une sorte de complémentarité qui soude mort et ressuscité. Non pas mort ou ressuscité, c'est vraiment l'un et l'autre associés. Et la lecture, l'écriture du vitrail, et donc la lecture qui s'ensuit, montre bien ce double mouvement qui, dans un premier temps, conduit à la mort et donc à l'abaissement, comme dans une sorte de pointe du V, et puis ensuite une remontée. On pourrait prendre tous les autres vitraux, ils ont chaque fois un schéma original qui est renforcé par le dessin des ferronneries, et qui va créer des effets de centralité, des effets de marginalité. Il y a les demi-médaillons qui sont sur les côtés, il y a les médaillons qui sont dans l'allée centrale. Par exemple, le vitrail du Bon Samaritain, c'est trop long pour le raconter en entier, puis il faudrait être sur place pour apprécier toute la force des images. Mais ce vitrail du Bon Samaritain culmine en son milieu, vraiment l'image qui concentre toute l'histoire, c'est la figure d'Adam, merveilleux Adam, créé par Dieu pour régner sur la création et qui apparaît dans son innocence première. Alors on connaît l'histoire d'Adam et Ève qui effectivement vont, à cause de la faute, par la faute, chuter. Et néanmoins, un nouvel Adam va arriver sous les traits précisément du Samaritain qui prend en charge l'humanité souffrante et lui redonne sa place de gloire, sa place d'honneur. De sorte que ce médaillon va être lu de deux manières, soit le premier temps, celui de la Genèse, la chute de l'homme, soit le deuxième temps, la résurrection, la gloire d'Adam, in fine.
Merci beaucoup Jean-Paul de Rambles. Nous avons vu, grâce à vous, que les vitraux sont loin d'être de simples images qui s'adressent à des illettrés, et nous avons vu aussi que les maîtres verriers qui ont mis en image ces histoires de prises dans l'Ancien ou du Nouveau Testament, ou qui racontent des légendes reprises ensuite dans la légenderie, sont des images conçues par des gens qui ont connu les auteurs de l'Antiquité, qui savent construire un discours et le mettre en image avec beaucoup d'habileté et un grand savoir-faire, car ces images sont très complexes. Et c'est grâce à vous, justement, et à votre épouse Colette, que les historiens ont pu redécouvrir tous ces sens cachés et les liens qui unissent les vitraux côté nord et sud. Et ça sera sans doute l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup, merci. Jean-Paul de Rambles. Merci beaucoup, chers auditeurs de Radio Conciel. À dans 15 jours.